Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Deeply Rooted, encore une fois à distance pour cause de Covid, mais je suis accompagné toujours de mes deux acolytes, Momo.
Et ouais, ravi et Iniesta, toujours présent.
Très content d'être avec toi, et Jorginho également à distance.
Ouais, ça fait plaisir d'enregistrer quand même malgré tout ce bordel.
C'est pas simple, on essaye de vous fournir votre dose mensuelle avec mes deux experts donc du rap américain. Je vous rappelle le concept, on part sur une nouvelle scène à chaque fois pour vous parler d'un style, d'un sous-genre du rap US, actuel ou pas d'ailleurs. Ce soir, on va parler d'un genre justement, je sais pas justement, on verra, est-ce qu'il y a encore des artistes qui le pratiquent actuellement, c'est l'horrorcore. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, Momo? Allez, tiens, on va changer.
Et oui, bah alors l'horrorcore, en fait, il y a un sous-genre du rap, comme tu le disais, qui a des thématiques et un style bien particulier. J'irais pas dire que c'est confidentiel, mais ça reste comme une nappe underground, mais qui a beaucoup de followers endurcis.
Et pour parler de l'horrorcore, on va aller à Détroit, parce que c'est quand même la ville phare de ce courant musical. Tout au long de l'émission, on vous balance des sons en rapport avec le sujet. On vous invite aussi à aller écouter les précédents épisodes. On en a bientôt on a plus d'une vingtaine d'ailleurs, sur www.deeplyrooted.fr, à aller liker la page, tout ça si vous aimez. On va lancer l'émission avec un premier son de quelqu'un que vous devez connaître pour la plupart. C'est Eminem avec Kim. À tout de suite. Yesterday I changed the diaper, wiped you and powdered you. How did you get so pink? Can't believe it, now you're too. Baby, you're so precious. Daddy's so proud of you. Sit down, bitch. You move again, I'll beat the shit out of you. Don't make me wake this baby. She don't need to see what I'm about to do. Quit crying, bitch. Why you always make me shout at you? How could you just leave me and love him out the blue? Aw, what's the matter, Kim? Am I too loud for you? Too bad, bitch. You're gonna finally hear me out this time. At first, I'm like, aye, you wanna throw me out? That's fine. But not for him to take my place. Are you out your mind? Let him sleep in our bed. Look at Kim. Look at your husband now. I said look at him. He ain't so high now, is he, little punk?
Why are you doing this?
Shut the fuck up.
You're drunk. You're never gonna get away with
this. You think I give a fuck? Come on, we're going for a ride, bitch.
No.
Sit up front.
We can't just leave Haley alone. What if she wakes up?
We'll be right back. Well, I will. You'll be in the trunk.
So You did it! It's your fault! Oh my god, I'm cracking up! Get a grip, Marshall! Hey, remember the time we went to Brian's party? And you were like so drunk that you threw up all over Archie? That was funny, wasn't it? That was funny, wasn't it?
Yes!
See, it all makes sense, doesn't it? You and your husband have a fight. One of you tries to grab a knife. And during the struggle, he accidentally gets his Adam's apple slice. But while this is going on, the sinus woke up and he walks in. She panics and he gets his throat cut. So now they're both dead. And you slash her own throat. So now it's double homicide and suicide with no note. I should have known better when you started to act weird. We could have... Hey, where you going? Get back here! You can't run from me, Kim. It's just us, nobody else. You're only making this harder on yourself. Ha ha, gotcha. Go ahead, yell. Here, I'll scream with you. Ah, somebody help! Don't you get it, bitch? No one can hear you. Now shut the fuck up and get what's coming to you. You were supposed to love me. Now please, bitch, please.
De retour dans Deeply Rooted pour parler de l'horrorcore et de Détroit en particulier. On va s'écouter le son d'Eminem, Kim, qui date un peu maintenant des années 2000 avec une performance théâtrale assez balèze du poteau Eminem. Justement, qu'est-ce que c'est l'horrorcore ? On va l'aborder, c'est assez simple déjà par le nom, on peut un petit peu s'imaginer de quoi on parle. Donc c'est un genre qui est très imagé et qui est très influencé par les films d'horreur, très lugubre. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus commercial comme son, on y viendra justement. Momo, tu peux peut-être nous détailler un petit peu les caractéristiques de ce sonore de l'horrorcore.
Bah carrément. Bah, alors pour le coup, hein, ça reste purement et simplement du rap. Après, c'est un rap qui lie plein de choses. C'est un mélange de gangsta rap, donc un rap un peu street, il y a... des sonorités parfois rock, c'est pas tout le temps le cas. Il y a c'est des lyrics très morbides et bon, c'est un peu saupoudré aussi, comme tu le disais, d'un imaginaire digne des films d'horreur. Il y a quand même une influence là-dessus, aussi bien sur le son que sur les lyrics. On parle aussi de The Wicked Shit en anglais. En gros, c'est le pire du pire, quoi. C'est encore plus dégueulasse que dégueulasse, The Wicked Shit, quoi. Donc, c'est comme ça qu'ils le traduisent. Et à proprement parler, en fait, bon, ça, c'est pas de l'horreur, hein, même si c'est intégré dans le genre, mais c'est un rap qui est tellement dur et transgressif, avec pas mal d'humour noir, et il y a souvent des thèmes malsains et malaisants, voire tabous même, qui sont abordés, que ça a pris ce nom-là. Alors on va beaucoup parler de Détroit, bien évidemment, parce que c'est là où ça vit le plus, mais l'horrorcore, c'est pas né spécialement à Détroit, et le patron de la question, c'est Jojo, qui va vous dire d'où vient le... réellement l'horrorcore.
Ouais, peut-être juste avant, ouais, bah, peut-être que tu l'aborderas, mais sur l'appellation d'horrorcore en elle-même. Alors, il me semble avoir vu passer, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui a trouvé un petit peu ce raccourci, donc un mélange de horreur et de hardcore, il me semble, et qui est apparu après la naissance de ce style, entre guillemets, quoi.
Oui, oui. Bah, c'est ça, en fait. Parce qu'en fait, justement, le rap, en fait, dès qu'il y a un mouvement quelconque, en fait, généralement, ça vient soit de La Beria, soit de Houston. En l'occurrence, c'est plutôt Houston. Donc, en fait, c'est les Ghetto Boys dont on vous a déjà parlé un certain nombre de fois, qui ont été les premiers, enfin, en tout cas, à vraiment se faire remarquer pour des lyrics vraiment assez hardcore. C'était pas vraiment encore dans l'imaginaire horreur, etc., mais il y avait quand même des trucs bien, bien violents qui ont pas mal choqué et tout à l'époque. Et après, moi, l'horrorcore, à mon sens, c'est... On a parlé, enfin peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'on a parlé la première fois avec Gangsta N.I.P. qui avait sorti un album qui s'appelait The South Park Psycho, qui avait pas mal fait parler. Et là, je crois que c'était à la suite de cet album-là qu'on avait parlé d'horrorcore. On avait fait ce terme donc qui mixe horror et hardcore. Et donc voilà, il me semble que c'est début des années 90. Gangsta N.I.P. ça sort en 92. Mais avant ça, il y avait déjà pas mal de choses, déjà à Détroit et même, même à Houston et ailleurs, quoi.
Ouais, d'ailleurs, on a abordé de loin ce sous-genre quand on est allé à Memphis, non ? En parlant de la Three Six Mafia.
Oui, alors mais après, Memphis, c'est un peu, c'est particulier, quoi. C'est un genre de hardcore, on va dire, déjà spécifique, donc on peut considérer que ça fait partie de l'horrorcore, mais c'est quand même, pour moi, un peu à part. La Three Six Mafia, oui, c'est...
C'est vrai que dans l'imagerie, on avait déjà un petit peu des pierres tombales, des cimetières, des mecs un peu foufou et des trucs lugubres.
Ouais, c'est clair. Oui, bah, de toute façon, Memphis, c'est aussi, ils sont un peu, il leur manque une case, surtout dans les années 90. Ils avaient un peu un petit souci. C'était un peu un truc général là-bas, quoi. Mais voilà, comme tu dis, Momo, voilà, c'est un truc qui est. Dans l'imagerie, il y a eu beaucoup d'influence du cinéma. C'est des trucs qui sont très codés, en fait. Tout ce qui est horreur, c'est pour ça qu'aujourd'hui ça parle. Si tu dis horrorcore, en fait, on va comprendre qu'il y a horreur et on va comprendre déjà tout un tas de thèmes. On va savoir en fait où on est, quoi.
Puis même, tu vois, même les films d'horreur, ça reste aussi des. C'est comme tu disais, très codé, peut-être pas formaté, mais très codifié. Et ça reste un peu de niche, même si t'as plein de films qui ont démocratisé le genre avec le temps. Mais surtout aussi, il y a une influence durant les années 70, fin 70, début 80, ou en tout cas dans ces eaux-là, avec les cinémas de quartier à New York, en fait, où ils en profitaient là-bas. Comme c'était des petits cinémas de quartier pour diffuser plein de films de genre. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi ce moment-là où l'horreur a commencé à rentrer dans. Peut-être pas dans les mœurs, mais dans ce qui est culture populaire, etc. Et ça a eu une influence sur pas mal de rappeurs. Et je pense notamment sur ceux qui pratiquent l'horreur, quoi.
Ouais, c'est ça, parce qu'il y a des. On le verra, donc il y a des personnes qui ont eu un peu leur période. Enfin, comme on a écouté Eminem, qui a pu avoir 2-3 sons qu'on peut caser dans cette catégorie, mais il n'a pas fait ça toute sa carrière, loin de là. Et après, il y a des vrais spécialistes du genre. Alors, ce qui va être intéressant peut-être de voir, c'est est-ce que c'est des mecs. Enfin, à quel degré ils font ça, quoi. Est-ce que c'est vraiment du second degré? Est-ce qu'ils croient vraiment en Satan et en ses pouvoirs? Ça va peut-être être intéressant d'aborder ça. Vous vouliez rajouter quelque chose peut-être sur le style en lui-même ?
Non, on a fait le tour, je pense, déjà dans ce qui est définition.
Et ouais, on va s'intéresser directement au protagoniste. On s'écoute à un nouveau son d'Andy Pierutti, c'est Gangsta N.I.P. avec Horror Movie Rap, justement, un son qui date de 92. Et on se retrouve juste après. A tout de suite. Worse than Freddy, you can't kill me, 'cause C'était Gangsta NIP avec Horror Movie Rap, donc 1992, comme je le disais. Je pense que ça y est, on y voit quand même vraiment plus clair sur le style dont on parle ce soir. Momo va nous parler d'un des principaux protagonistes, justement, qui est Hesham. Vas-y, dis-nous en plus.
Ah ben, je vous en dire pas mal, c'est dans ce que... c'est très bresson de nos jours, mais alors s'il y avait bien un mec qui était bresson déjà à l'époque, c'était le poteau Hesham. Et bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est aussi subversif que productif. D'ailleurs, son petit surnom, c'est The Unholy, donc c'est l'impie. Donc c'est clairement l'opposé de ce qui est pieux et dédié au Tout-Puissant. Donc bref, je vais me lancer un peu dans son histoire. Donc là, on est milieu, fin des années 80. Et donc c'est un... Lui, il est à Détroit, mais il passe du temps entre... il passe ses étés entre sa ville et New York. Il va assister à l'explosion, en fait... l'explosion du rap aux USA, et ça va clairement le motiver à faire la même chose. Donc il va se mettre à griffonner des petits textes dans son coin. Bon, il a déjà 10 ans, le petit bonhomme, et à 16 ans, en 89, bah, il va sortir un premier album, donc signe un peu de précocité quand même, en tout cas à l'époque. Ce premier projet s'appelle Boomin's World From Hell, donc on est déjà dans une thématique de l'enfer. Et ça se voit, hein, qu'à la pochette, hein, il est là avec un air plus que déter et dans des flammes.
Pourquoi, qu'est-ce qui lui est arrivé en fait? Il a eu une mauvaise rencontre quand il était jeune.
Je sais pas si sur le chemin entre Détroit et New York, il a croisé Iblis, mais en tout cas, il y a rien qui explique qu'il ait vite dévié de sa position. Après, Détroit, c'est quand même une ville très dure, donc je pense que ça te formate déjà un petit bonhomme, quoi, une personne en tout cas.
Et il sort ça du coup en indé, ou il rencontre des...
Ouais, il sort ça. Non, il sort ça dans son coin, et c'est un truc qui se vend juste par le bouche à oreille à 100 000 exemplaires. On avait déjà parlé de l'industrie du disque. Et ça, c'est typique des États-Unis, quoi. Genre, même dans ta ville, tu peux finir rockstar, quoi.
100 000 par le bouche à oreille, c'est quand même très fort.
Ouais.
Plus balèze que Clignancourt, qui est un peu la référence à bouche à oreille.
Voilà, qui est quand même paix à tous les gens qui travaillent avec les clients. N'oublie pas Marché Malik. Bien évidemment. Alors, bon, premier succès, il va continuer à développer son personnage sur 2 EP, il va sortir un double album carrément, puisque comme je vous le disais, il est vraiment très productif, il en a gros sur la patate, et l'album s'appelle Judgment Day. Donc voilà, il est toujours dans cette thématique mi-spirituelle, mi-cataclysmique, un peu spécial, quoi. Et faut savoir aussi qu'au-delà même d'être productif, c'est quelqu'un qui fait ses propres prods. Donc le mec, il fait tout, il rappe, il écrit, il fait ses prods, et dedans, il a un petit goût pour le rock. Hesham, et il va, sur un des sons, il va sampler Black Sabbath. Donc moi, je sais que c'est le groupe de The Osborne, je suis pas ultra calé, mais...
Après, ce qui est marrant, c'est quoi, il cale des trucs de rock comme ça, et notamment Black Sabbath, c'est assez connu qu'il est fan de ce groupe. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il va mixer ça avec des trucs plus classiques, genre Parliament, Funkadelic, tu vois, genre c'est... Ouais. Il y a un mélange qui est assez rare, quoi.
Non, mais pour le coup, il est quand même reconnu aussi pour être très pointu dans ce qu'il fabrique, hein. C'est pas du tout...
Il fait quoi, il est influencé par des personnes déjà dans ce style-là un peu, ou c'est vraiment son truc à lui
Non, je pense que c'est un peu... dans son personnage, déjà, c'est quelqu'un qui écoute pas grand monde et qui envoie valser un peu les gens, quoi. Donc lui, c'est genre... Pas me, myself and I dans le sens égoïste, mais dans le sens genre je fais ce que je veux, je donne à mes fans ce que je veux, et s'ils sont pas contents, c'est la même chose.
Bah après, déjà, s'il écoute des trucs de rock et tout, ou des trucs même de hard rock metal, c'est que déjà, il y avait un peu ces thèmes d'horrorcore et de trucs sataniques un peu dans ce genre de musique, donc peut-être que déjà, il a ces références-là aussi, quoi.
Oui, non, carrément. Mais peut-être qu'il a eu une... Bon, alors ça, j'ai pas vu, mais il a peut-être une éducation rock dans sa famille. Bon. En tout cas, il est déjà dans l'imagerie, les lyrics très très crus. Bon, ça parle de démence, de cul, de meurtre, et ça donne un album très bon, mais plutôt dérangeant. Alors, entre-temps, comme je vous le disais, on reste toujours sur le thème de la productivité. Il va se lancer en duo avec deux de ses acolytes, qui s'appellent Mastermind et TNT. Portent bien leur nom, et qui sont aussi tous les deux de Détroit, ils vont former le groupe Nataz. Alors d'aucuns disent que Nataz c'est l'inverse de Satan, ça n'a jamais été confirmé par personne, mais voilà, il y en a qui voient complot à toutes les portes. Ils vont sortir un album qui s'appelle Life After Death, 5 ans avant notre fameux Biggie. Donc ils étaient eux aussi, même avec Nataz, dans un délire d'horrorcore, et pareil, Hesham il s'occupe de littéralement tout produire sur l'album, de kicker. Il va mélanger des sonorités West Coast, parce que je sais que le NWS est aussi une grosse influence pour lui. toujours du rock. Et voilà, et donc là, il est clairement dans son délire d'acid rap, parce que tout à l'heure, on parlait d'appellation, horrorcore, de définition, etc. Mais lui, il appelle ça de l'acid rap. On a qui appellent ça du death hip-hop. Il y a plein de noms, mais lui, il est dans un délire d'acid rap.
C'est vrai que quand j'ai écouté des sons pour préparer l'émission, c'est marrant que t'en parles, on en a pas parlé avant, j'avais l'impression qu'il y avait quand même pas mal de sonorités West Coast. Ouais.
Ah oui, il est totalement dedans. Ouais.
Donc c'est un mélange de trucs West Coast qui est un peu le contraire de l'horrorcore, parce que c'est quand même très... très ouvert, très sympa, facile à écouter, avec des trucs lugubres.
Bah ouais, puis même si tu compares les deux villes, LA c'est quand même la plage, Sex and Sun quoi, et Détroit c'est les bâtiments, la grisaille et le froid quoi, donc... Mais ouais, grosse influence en tout cas pour lui, mais... En plus du coup de sa précocité, de tout ce qu'il fait à côté, c'est vraiment un touche-à-tout, et... Il va continuer sur son délire d'horrorcore avec deux albums qui s'appellent Kill the Fetus et Closed Casket, donc Tue le Fetus et Cercueil Fermé, je pense qu'on peut pas être plus explicite, qui sont aussi des canons du genre, hein. Et clairement une preuve de son assise et de la maîtrise qu'il a de l'horrorcore, mais après il va s'en aller vers d'autres horizons un peu moins violents quoi, pour le coup, il va ça va pas entacher son talent, hein. ça va rester très bon, c'est juste que ses fans un peu plus hard ils vont avoir un peu du mal avec ce style-là, mais comme je te le disais tout à l'heure, lui, il s'en bat vraiment les reins, et du coup, il continue à appliquer cette recette-là, cette nouvelle recette, entre guillemets, de sonorité, en solo et en groupe. Donc il dicte clairement sa tendance, ce qui colle à son personnage et à ses propos. Alors, il n'abandonne pas le côté psyché et barjo pour autant, mais ça le rend un peu plus accessible, on va dire.
Ok, mais donc il avait quand même une grosse fanbase, quoi. Genre, il avait trouvé un public dans ce style-là.
Ouais, et puis déjà, alors, il y a un public underground qui est friand de ça, et puis même à Détroit, c'est quand même, on en parlera, d'autres groupes qui font de l'horrorcore et qui sont très connus dans le milieu, pour eux, ils disent que Hesham, c'est dans le top 10 des gens qui ont influencé le rap à Détroit, donc même au-delà de ça, il est soutenu chez lui, quoi. Donc là, on est début des années, 4, des années 80, pas du tout, des années 2000, pardon. Et c'est l'explosion d'Eminem et D12, qui sont clairement des descendants directs, indirects de Hesham. Parce qu'Eminem, il a aussi à ses débuts ce côté très psychotique, beat sombre, s'identifie à des tueurs en série, la chanson qu'on a écoutée, Kim, c'est clairement un storytelling où il raconte qu'il tue sa femme, quoi. Il l'enferme dans un coffre et c'est très, 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 très brosson. Après, Hesham, comme je vous le disais, il a une personnalité particulière, il va se clasher avec eux. Où il essaye un peu de... il fait pas ami-ami avec eux, mais finalement, ça part vite en freestyle. Mais par contre, il va collaborer avec un certain Kool Keith, dont on vous a parlé dans la dernière émission, et qui est tout aussi perché que lui. Et voilà, donc ça va un peu élargir son public, peut-être plus côté... toujours dans le rap underground, mais peut-être moins agressif. Mais voilà, ça va élargir un peu son public, cette collab avec Kool Keith. Et il va quand même revenir aussi à ses premiers amours, en signant sur le label de l'autre tête d'affiche de Détroit en termes d'horrorcore, c'est les Insane Clown Posse. Alors on va pas en parler tout de suite parce que c'est Jojo qui va vous en parler, mais je tiens juste à faire une petite anecdote, à savoir que Hesham il est très porté sur les narcotiques aussi. Et du coup il a sorti toute une tape album qui s'appelle DMT Sessions, DMT c'est de la drogue, dont le titre déjà de l'album et les noms des tracks sont des noms de drogue. Donc il est aussi très porté là-dessus, en plus des thèmes très lugubres. Donc voilà, je pense que je vous ai un peu tout dit sur lui. Et pour conclure, faut savoir qu'il est encore actif, hein, Hesham. Donc il a sorti un diptyque en 2020 qui s'appelle She Loves Me, She Loves Me Not. Donc,
là, il doit avoir du coup 40 ou 50 ans. Là.
Ouais, il avait plus de 50 ans, je crois. Et au final, Hesham, plus que de l'horrorcore, c'est un peu le reflet d'une Amérique qui est pauvre, défaillante et glauque, dans laquelle il a grandi. Et je pense qu'il fait juste que retranscrire ou parler des pires facettes de l'être humain et de la société. Et je pense qu'il reste un peu l'image de la ville dans laquelle il a grandi, Détroit contre le reste, Hesham contre le monde. Alors, avant de finir sur cette belle citation, dernier conseil, n'écoutez pas Hesham sur des basses, en famille ou avec des gens un peu froidos. Parce que ça risque de les choquer, et vos voisins aussi d'ailleurs.
Dernière voilà petite moi. Question, peut-être, tu dis du coup il est reconnu dans son genre, quoi, mais est-ce qu'il est même reconnu comme vraiment un bon rappeur, je veux dire au niveau techniquement, etc.
Ah oui, carrément, c'est genre, il est très doué dans ce qu'il fait, je te dis, aussi bien en tant que rappeur qu'en tant que beatmaker, quoi. Donc c'est vraiment.
Et puis à Détroit, il y a vraiment eu un vrai phénomène. Donc il a un vrai respect, je pense, à Détroit aussi. Au-delà de son style et de son sous-genre, quoi.
C'est full soutien à Détroit de Hesham.
Ok, eh ben, ça me semble assez clair. On va s'écouter justement un son de Hesham qui s'appelle Food Stamp. Et on revient tout de suite pour parler des fameux clowns que tu as évoqués. À tout de suite.
When niggas pack glocks, everybody trying to come up slanging crack rock. Man made money, now money makes man. Living life in the fast lane, short lifespan. Now I yachts to get some dough. Living the life of crimes, the only life I know. Me and my brother J-A-Y, we do or die. Murder you all with no alibi. For dollars, it makes me holler. Cash flow getting low. Streets dried up, everything be moving slow. In this game, such a dirty shame. You know my name, I'm with the rest of the hustlers. Fuck the fame, get nailed. I'm getting nailed. I'm getting nailed. Big money, nigga. I'm getting nailed. I'm getting nailed. Buy and sell that shit. Nail, getting nailed. Nail, getting nailed. Buy your ass. Nail, getting nailed. They call me UPS, Federal Express, untouchable nigga Elliot Ness. Chef Boyardee, learn to cook up a key. Don't get high off your own supply. Went from nigga dreams to having cream. Weight breaking triple beams, staring the eyes of some dope fiends. Amphetamines got my hood on lockdown. Jealous ass niggas won't allow me to put the Glock down. I had to sacrifice my family and friends just to clock these ends. Rolling in the bins. It's kinda lonely at the top, but it don't stop. Time to do the flip flop or with the crack rock.
De retour dans Deeply Rooted pour parler Horrorcore et Détroit. Donc Momo a fait une longue page sur Hesham, le pilier peut-être du genre. On vient de s'écouter d'ailleurs Food Stamp. Et Jojo, tu vas nous parler d'un groupe cette fois-ci. Donc c'est les Insane Clown Posse, qui ont l'air bien déjantés également.
Ouais, alors c'est... Ouais, exactement, ils sont bien déjantés, mais c'est un duo en fait plus qu'un groupe. C'est bizarre qu'ils s'appellent Posse, parce que généralement Posse, ils sont plus nombreux. Mais enfin bref, donc c'est un duo qui est constitué donc de deux rappeurs qui s'appellent Violent J et Shaggy Too Dope, donc déjà des noms un peu farfelus. Et c'est un peu le duo qui va être un peu la face visible de ce qui se passe à Détroit, parce que ils vont trouver un public, si tu veux, qui sera pas forcément, qui sera moins tourné vers le rap. Ils vont peut-être un peu plus piocher vers des amateurs de rock, qui vont quand même pas mal se faire connaître, même nationalement, ils vont pas mal faire le buzz. Voilà, donc c'est un peu la tête de gondole presque, on pourrait dire, de ce mouvement horrorcore à Détroit, à défaut d'être des très bons rappeurs, puisqu'ils ont d'ailleurs eu beaucoup de mal à se faire reconnaître dans le monde du rap, malgré leur succès qui a été assez rapide. Et voilà, parce que musicalement, il faut dire qu'en termes de rap, c'est pas génialissime, hein, on va pas se mentir. Techniquement, c'est des trucs qui se faisaient déjà au milieu des années 80, quoi. Juste, ils rajoutent quelques cris, des petites intonation dans les aigus pour donner un côté fou, dangereux, tu vois. Il y a un côté un peu, comment on appelle ça, fête foraine, tu vois, voilà, dans le cirque, etc. Avec leur dessin, avec leur, pardon, leur visage, ça fonctionne aussi pas mal comme ça. Ils cherchent vraiment à se donner un côté très fou.
Oui, bah c'est les fameux voilà. clown d'horreur, quoi, de ça et compagnie, quoi.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est, oui, bah, ils cherchent complètement à jouer là-dessus. Mais donc voilà, musicalement, je conseillerais pas forcément d'écouter ça. Je vous dirais pas d'écouter ça en vous disant que c'est génial et que vous allez découvrir un truc complètement incroyable. Par contre, ils ont un côté business qui est très très fort, surtout qu'ils sont développés en indé. Donc comme je disais, au niveau de leur imagerie déjà, parce que tous les clips, les visages peints, etc., il y a vraiment tout un univers qui est bien défini. Voilà, ils ont aussi appelé leurs fans, je trouve que c'est un truc qui est un peu intéressant, c'est qu'ils ont appelé tous leurs fans des Juggalos. Donc ça fait vraiment une communauté qui est soudée, qui est unie autour d'eux. D'ailleurs, les Juggalos ont été répertoriés comme étant un gang, ce qui n'est pas une mince affaire aux États-Unis, bon, même si c'est un peu flou et on ne sait pas trop qui fait partie des Juggalos, donc c'est ça qui est un peu bizarre. Mais voilà, donc ils ont vraiment toute une communauté très forte autour d'eux. Ils ont un univers, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est que en fait tout ce qui se passe dans leur musique, ça se passe dans le Dark Carnaval. C'est un peu comme leur terre du milieu, si vous voulez. Donc c'est toute leur discographie se développe donc dans ce Dark Carnaval qui est une sorte de fête foraine habitée par des esprits maléfiques. Et à chaque album, en fait, sont appelés des Joker Cards qui sont, enfin voilà, en fait. Dans chaque deck, parce qu'il y a plusieurs decks dans leur discographie, il y a 6 Joker Cards. Donc voilà, là ils en sont à deuxième deck et il y a la cinquième Joker Card. Donc si vous faites le calcul, ça fait environ le 12e album, 11-12e album, sachant qu'il y en a qui sont dans des Joker Cards qui sont en double. Quoi.
Je sais pas si tu l'as précisé, juste en quelle année ils commencent à émerger quoi.
Ah oui, c'est vrai que j'ai pas forcément précisé, ils ont commencé un peu pareil qu'Echam. Ils se sont retrouvés au début des années 80, enfin ils sont connus au début des années 80 et ils sont...
Ah donc c'est aussi des vieux de la vieille quoi.
Ah ouais, carrément, c'est complètement des vieux de la vieille. Et en fait c'est ça aussi, c'est un autre truc qui est assez marrant avec eux, c'est qu'à la base quand ils sont connus, ils faisaient du catch en fait, ils étaient dans les ligues, je sais plus comment ils appelaient ça, des backyard battles.
Ouais, c'était un mouvement là qu'il y a eu aux États-Unis où le catch a quand même une très très grosse ampleur aux États-Unis. Il y a des gens qui faisaient ça dans leur arrière-courte, ils ont tout le temps souvent dans les zones résidentielles, ils ont des petits jardins, et les mecs, ils faisaient du catch sans protection, ils se mettaient en short torse nu, ils se jetaient depuis leur toit pour exploser un mec qui était sur une table. D'ailleurs, il y a eu pas mal de conneries qui ont été faites. Ouais, c'était une grosse tendance à un moment avec les jackass, les conneries dans le genre.
Ouais, non, mais c'est sûr qu'il devait y avoir plein de débordements, mais bon, enfin, donc ils sont un peu dans cet univers du catch en fait. Dès le début, avant de faire de la musique ensemble, ils faisaient du catch, et en fait, depuis après qu'ils sont devenus fans de rap et qu'ils ont voulu se lancer une carrière dans le rap, ils ont créé, une fois qu'ils avaient eu les moyens, donc une fois qu'ils ont eu du succès, ils ont créé leur propre ligue de catch, donc là, un peu plus de manière un peu plus officielle, au sein de laquelle ils sont quand même compétiteurs. Donc voilà, il y a pas mal d'événementiels aussi autour de tout ce qu'ils font. Ils ont aussi un festival qui s'appelle The Gathering of the Juggalos, donc le rassemblement des Juggalos, où donc t'as plein d'artistes qui passent, souvent justement des artistes d'horrorcore, mais aussi autour de ça t'as plein de spectacles avec des artistes qui font des prestations très, ce qu'on peut voir parfois dans la France, un incroyable talent, enfin ce genre de choses, si on peut dire ça, où les États-Unis ont un incroyable talent. Voilà. Donc ils ont vraiment ce côté businessman. Dès le début, ils ont créé leur label Psychopathic Records, où ils ont un peu regroupé pas mal d'artistes, notamment Echam, je crois qu'il y est passé, ou en tout cas il a pas mal fait de trucs avec eux. Et il y a aussi d'autres artistes, du coup c'est là où il y a un peu toute une scène qui se développe, comme Twisted, Anybody Killa, ou alors Blaze Yadet Homie. Donc c'est pas des artistes que je connais très bien, mais c'est là où on voit qu'en fait ils ont vraiment réussi à regrouper autour d'eux tout un truc. Et c'est ça qui les rend assez intéressants, c'est que finalement, même si musicalement c'est pas forcément ma cam, bah ils ont vraiment créé une effervescence et trouvé leur public. Et puis ils sont plutôt sympas, ils sont plutôt marrants, ils ont fait leur truc dans leur coin sans forcément demander rien à personne. Ils n'ont pas été beaucoup aidés par l'industrie, mais ils ont des rapports avec les labels qu'ils ont su très bien gérer et parfois leur faire des beaux pieds de nez parce que parce qu'ils avaient, enfin, tous ceux qui, les labels qui voulaient gérer leur distribution, ils pensaient que ça serait un truc qui n'irait jamais au-delà de Détroit.
Bah, donc, c'est un peu la question à un moment que je voulais poser, on peut peut-être voir ça maintenant, c'est qu'au niveau commercial, l'horrorcore, en vrai, c'est pas très viable, quoi, quand on se lance là-dedans, parce qu'au niveau de, au niveau des paroles, etc., c'est pas quelque chose, en tout cas, qui va être très vendeur pour passer en radio ou sur les grandes antennes. Donc en gros, les personnes qui rentrent là-dedans savent que ça va être difficile de faire son trou, quoi, et d'exploser, non ? Je sais pas.
Bah, tu pourras pas devenir une star, une grande star, c'est sûr, en faisant ce qu'ils font. Par contre, tu peux trouver ton public et tu peux arriver à en vivre et faire, voilà, à mon avis, enfin, en tout cas, c'est ça, là. Et d'autant plus maintenant avec Internet, même eux, à l'époque, c'était même pas le cas. Mais je pense que voilà, ça reste un truc de niche, c'est clair. Hein, mais,
oui, mais comme tu dis, c'est intéressant parce qu'ils ont su quand même trouver. Enfin, t'as quand même des centaines de milliers de personnes que tu peux toucher avec ta musique, justement, sans passer
Ouais, mais c'est là-dessus qu'ils sont très très forts, quoi. Et en fait, eux, ce qu'ils ont fait, ce qui était assez drôle, c'est qu'ils, justement, pour prouver au label que, bah, à ce moment-là, je crois que c'était Jive, ils avaient signé un truc avec Jive qui devait les, enfin, voilà, les promouvoir, mais. Mais déjà, ils ne voulaient pas les faire sortir de Détroit. Quoi. Ils se disaient, mais ça, de toute façon, vous c'est, ça, votre niche, elle est à Détroit et ça n'ira jamais ailleurs. Et eux, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, bah, tiens, tu vas voir, ils sont partis avec des camions blindés de CD et de posters et ils se sont posés à Dallas parce qu'ils avaient, ils étaient tombés sur Dallas en lançant une flèche sur une carte. Alors, en mode, bon, bah, on va voir si on peut se développer ailleurs. Ils sont pointés à Dallas. Et du coup, ils avaient une deuxième base dans leur fanbase à Dallas. Donc c'est un peu comme ça qu'ils se sont, au début, ils se sont un peu fait connaître à divers endroits. Donc, encore une fois, voilà, c'est pas musicalement, c'est pas, je trouve pas ça incroyable, c'est marrant et ça s'écoute plutôt pas mal, mais bon, sur la durée, ils ont une discographie très étoffée, j'ai pas forcément envie d'écouter toute leur discographie ni de conseiller de l'écouter, mais voilà, ils ont quand même su vraiment trouver leur public et tout ça en indé, donc franchement, respect quand même, quoi. Bah ça, ouais, ils méritent quand même.
Ça vaut le coup d'aller voir en plus éventuellement leur clip, etc., pour voir un petit peu le délire justement que t'as évoqué.
Bah ils ont vraiment, ouais, ils ont vraiment tout un univers pour le coup, donc c'est même ça qui est regardé au-delà même de leur musique, c'est tout ce qu'ils ont créé autour d'eux-mêmes. Et c'était juste pour rebondir ce que tu disais tout à l'heure, en fait, souvent dans les genres de niche, t'as pas beaucoup de fans, t'en as beaucoup moins que pour le mainstream, mais par contre, t'as la différence, c'est des fans qui sont beaucoup plus core, beaucoup plus attachés et qui lâchent pas le steak facilement, donc qui sont plus acheteurs du merchandising, ce genre de choses. Et si t'en as pas beaucoup, en tout cas, ceux que t'as, ils te font vivre et sur la durée généralement.
Ouais, après, t'as juste le contre-coup, encore une fois, bah, dont t'as parlé tout à l'heure avec Hicham, c'est que par contre, des fois, si tu veux te mettre à faire autre chose, parfois c'est pas évident parce que comme ils t'ont suivi vraiment que pour ça, souvent t'as des fois des oppositions un peu comme ça de se dire ah bah non, il faudrait pas que tu fasses autre chose. Comme non, c'est des fans, des gros fans, c'est souvent ça arrive.
Non, je suis carrément d'accord. Lui, ce qu'il a sauvé entre guillemets, c'est dans le fait, comme je disais, qu'il s'en tape un peu, et de deux, qu'il soit très doué dans ce qu'il fait, ce qui lui a permis de toucher d'autres personnes, d'autres genres et de rester comme stable, quoi.
Ouais, exactement. Bah, on va peut-être voir justement, parce que y a d'autres questions à aborder, notamment bah, peut-être sur l'influence de ces artistes sur la scène nationale, mais peut-être aussi en France, parce que par exemple, c'est des gens dont on n'a pas vraiment entendu parler, j'imagine. Sûrement des gens connaissaient, mais c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup écouté en France à l'époque. Du coup, peut-être dans cette dernière partie, du coup, on abordera ça, l'influence sur le rap français, est-ce que ça existe, l'horrorcore en France ? Et sur les autres artistes à Détroit ou non, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder en profondeur, on s'écoute d'abord un petit son justement des Insane Clown Posse, qui s'appelle Mad Professor, qui date de 99, et on revient pour la dernière partie de Deep Herotide. Now come here, you big fat motherfucker, get on the table! I was never popular, this I'll admit, fuck school, school never liked me. All the kids would always beat me till I'm half dead, make fun of the size of my forehead. But that shit never bothered me. Mama and mother, they owned a lot of property. They had a science lab in the basement, and that's where my free time, well, my time was spent. I made a mouse with a chicken head. It clucked three times, cluck, cluck, cluck. Then I was dead. I made a lot of things, though, like a frog with a turkey neck. It was the shit. Yeah. But I'm still lonely, I need a homie. So I collected limbs and made me a zombie. I could have made a girly friend, but fuck that, I got my girly right here. Yeah.
under the direction of
you can call me Mad Professor.
This is like where you live?
That's right. Why, you don't like it?
I mean, oh my god, it's dirty. Do you like...
Shut up, bitch! Give me your tippy toes! I used so many body parts, it was crazy. I killed a whole bunch of motherfuckers, like, what, 80? They all chipped in on my special friend. Everything helps, even if you got a finger to lend. Come on. I hear the other children playing outside. Keep it down, you little bitches! I'll skin you fucking high! Stressful! It's whack. What? Somehow I gotta attach this nut sack. Shit. Fuck. I'm sawing off an elbow. Looking at the meter on my quasar zip the low. Or better yet, look out the fucking window. I see a storm's coming. It's almost time to roll. Screw the head on. Come on, come on. Come on. Come on. It's the thuggish, ruggish bone. Okay, it's time. Hit the switch. Turn it up. I hurt. Fuck. Shit. Didn't work.
Under the direction of
you can call me Mad Professor.
I will make a friend for me. Under the direction of
you can call me Mad Professor.
Rangers of the sea,
we will rule eternity.
I am your creature. Would which one of us is the horror that scares the children? Is it me? Or is it the man that made me? Or had evil in his mind to create the awful?
You call for a record?
Sure did. Come on in.
I got the truck running outside. I'm gonna go ahead and... Ah, oh, motherfucker, would you hit me with a frying pan or something? What the fuck, bro? You crazy motherfucker? Ah, oh, that shit hurt. Man, I'm gonna fuck you up.
Get back in.
He's trying to kill me,
It wasn't always easy,
hell no,
let me tell you, but fuck that, cause I ain't no failure. I put the shit with the veins and the stuff with that... Wait a minute. Did you hear that?
Yeah.
It's alive! Woo! I just gotta wake it up! Hand me that rock and ride!
Come on!
Pour it in the cup! Give it to his ass! Wait!
Hold up! Pause! I ain't cleaning his drawers, man! Fuck that!
Get him set! Get him ready! It's almost time! Paint his ugly face up! Almost like mine! I see him twitching! I'm on a roll! He can help me tell the whole world about the carnival! Woo! Turn the hurts all the way up for this shit! And just wait for that lightning bolt to him! Did it work? You make the call!
Shaggy? What up, y'all?
C'est donc parti pour cette dernière partie de l'émission de Deeply Rooted sur l'horrorcore de Détroit. On vous le rappelle, si vous aimez, n'hésitez pas à aller liker la page Facebook de Deeply Rooted et d'aller sur notre site www.deeplyrooted.fr pour aller écouter nos précédents épisodes. Il y en a une ribambelle de quoi vous faire kiffer largement. On vient de s'écouter donc le son de nos fameux clowns déjantés. Le son qui s'appelait Mad Professor. Et donc dans cette dernière partie, comme d'habitude, on retrouvera le menu, alors là on m'a écrit le menu charognard, qui est donc le menu maxi best-of habituel, c'est-à-dire trois albums conseillés par nos chroniqueurs Momo et Jojo, parce qu'on vous a balancé comme d'habitude beaucoup de noms, beaucoup de titres d'albums, d'artistes, etc. Mais à la fin on essaie de vous faire un petit condensé de quoi partir avec. Et on va peut-être aussi aborder donc l'influence de l'horrorcore. Peut-être dire que du coup, c'est une spécialité à Détroit, mais qu'il y a eu d'autres groupes ou d'autres gars qui sont penchés pour faire ça à droite, à gauche. Qui veut commencer par nous parler d'un de ces petits poulains ou je sais pas, d'un artiste à évoquer?
Je vais me lancer un peu, mais au pire, Jojo me rattrapera. Mais c'est vrai que là, tu as dit, c'est une spécialité de Détroit, mais il y a des ramifications dans tous les USA. Et vous avez déjà parlé de la 36 Mafia qui trempait dedans, on en a reparlé un peu en début d'émission, même si c'est un type d'horrorcore différent. Il y a un type qui s'appelle Brosa Lynch, vous avez Tech N9ne qui vient de Kansas City, il y a même Grave Diggaz et Necro. Alors Grave Diggaz, c'est un collectif où il y a RZA du Wu-Tang Clan, et ils sont un peu partis dans ce délire-là, et Necro, pareil, c'est purement de New York. Donc ouais, il y a des ramifications partout. C'est un peu comme le gangsta rap, ça a forcément une origine, mais... un peu pratiqué partout. Bon, là, ça reste quand même plus confidentiel, l'horrorcore, mais...
Ouais, bah après, effectivement, c'est un truc, comme tu disais tout à l'heure, enfin, comme on a dit un peu tout au long de l'émission, ça reste un truc de niche. Et puis, finalement, c'est vrai que le seul point commun, c'est qu'il y a, voilà, c'est des trucs un peu morbides, mais finalement, de tous les noms que tu as cités, là, il y en a aucun qui fait vraiment la même chose. Enfin,
oui.
Voilà, après, c'est vrai que pour les grosses têtes, vraiment, horrorcore, c'est vrai que Brosa Lynch Hung, c'est vraiment le psychopathe par excellence. Bah lui, voilà, il vient de la baie ou de Sacramento, je crois.
Ouais, c'est Sacramento. Ouais.
Donc voilà, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Après, voilà, Necro, là, ça va vers le. Lui, il appelait ça du death rap, je crois, dans un peu en lien avec le death metal, tout ça, quoi. Donc,
c'est bien énervé.
Ouais, c'est bien nerveux et peut-être même un peu trop pour moi, mais.
Par contre, autre personnage, du coup, petite question. Alors, je crois que c'est toi qui nous avais parlé, Jojo, donc peut-être c'est à toi que ça adresse cette question. Cool Keys, justement, avec son album Docteur Octogoniologiste.
Octagon,
voilà. J'ai pu lire un peu dans certains articles, du coup, il le classe éventuellement dans l'horrorcore. Je sais plus si tu nous en avais parlé à l'époque.
Non, alors moi, c'est pas forcément ce qui... Enfin, à la réflexion, c'est vrai que ça, il y a un côté horrorcore parce qu'il y a un côté très. Après, c'est tellement perché, Cool Keys, si tu veux, que si tu veux, il parle d'un martien qui est gynécologiste et qui fait des, enfin quoi, qui pratique des chirurgies. Bon, évidemment, il va dans les détails et c'est dégueulasse, mais c'est tellement perché que je sais pas, moi, j'ai pas forcément l'image, si tu veux, que peuvent m'évoquer des Hesham ou Brosa Lynch, tu vois, où t'as. Là, il y a vraiment le côté film d'horreur, tu vois, je sais pas, il y a un côté plus codé. Là où Cool Keys, pour moi, il est plus perché. Mais c'est vrai que ça se défend complètement, notamment sur Dr. Octagon, de le classer aussi parmi ces rappeurs-là, quoi.
C'est plus perché, fantaisiste, finalement.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Et après, il pioche un peu dans toutes les influences, de toute façon. Enfin,
Dans les noms qu'on a cités, donc ce que je disais un peu à la fin de la partie précédente, est-ce qu'il y a des artistes qui sont un peu parvenus en France? Alors, dans les noms que tu as cités, Momo, par exemple, moi, il y a un groupe que j'ai un peu écouté par toi, je crois, Jojo, qui était les Suicide Boys, qui viennent de New Orleans, il me semble,
ouais.
Qui sont deux cousins, et que j'ai un peu écouté, ouais, qui était très sympa. Enfin, moi, j'aimais bien.
Ouais, alors, qui sont pour le coup beaucoup plus inspirés de ce qui se fait à Memphis,
ouais.
Comme d'ailleurs pas mal de. Enfin, Memphis a une plus grosse influence, on va pas se mentir. Après, voilà, quels artistes comme ça sont connus, comme ça reste des trucs de niche. Je pourrais te dire Tech N9ne, mais bon, c'est pas vraiment non plus. Hein.
Ouais.
Tech N9ne, il est un peu plus. Tech N9ne, il a touché pas mal de gens aussi qui étaient dans le rock et tout, donc il a aussi un peu grappillé sur ce terrain-là. Mais
il est
sinon,
connu pour sa technique, non, il me semble aussi quand même.
Ouais, Tech N9ne, et puis pour rapper ultra rapidement.
Ouais, voilà, c'est ça. Et ok, bah donc moi, ouais, Suicide Boss que j'aimais bien, d'ailleurs, je sais pas, est-ce qu'il continue à faire des choses ou pas.
Ça fait un moment que j'ai pas vu quoi que ce soit de passer, mais c'est vrai qu'ils étaient beaucoup plus productifs en tout cas à une époque.
Peut-être que sur SoundCloud et on n'a pas vu, mais.
Ok, sur les artistes, je sais pas si vous aviez d'autres noms à rajouter ou si on passe peut-être au Maxi Best Of avant de parler de la France.
Tu veux faire le Maxi Best Of avant de parler de la France du coup?
Ouais, bah avant de fermer la.
Ok, bon, je vais me lancer dans le Maxi Best Of puisque j'ai pas trop d'artistes à rajouter non plus concernant l'horrorcore. Alors,
donc trois albums pour toi qui illustrent bien la scène et que tu conseillerais
avec un petit dessert en plus, parce que bon, à chaque fois on fait un sandwich frites boisson mais on oublie le sundae. Donc je mettrai Kill the Fetus de Hesham qui m'a mis une bonne claque, bien qu'un peu perturbant. Mystic Styles de la 3-6, encore une fois, on est obligé de les placer, hein, même si c'est pas Détroit, mais l'album est tellement bon que si on peut le caler quelque part, on le cale. Et on en parlait tout à l'heure, Necro avec Jojo. Alors pareil, c'est un mec très énervé, très excité, on dirait un peu... Bon, toute proportion gardée, mais ça me fait penser un peu à Hugo TSR. Enfin, Hugo TSR ressemblerait un peu à Necro, et Gory Days, c'est le nom de l'album, que j'ai bien kiffé. Mais ouais, par contre, en écouter que du Necro ou du Hugo TSR, malheureusement...
C'est l'album parfait pour s'enfermer dans une cave avec un casque. Et...
Oui, voilà, c'est ça. Ça kick bien, mais je pense à la longue, c'est un peu dur à encaisser. Et pour le dessert, ça va être, justement, on en parlera après, des rappeurs français, mais Ténébreuse Musique de Al Capote et Butter Bullet, c'est d'ici de Butter Bullet.
Bonne transition en effet.
Si.
Jojo, à toi.
Alors pour le coup, moi je pense pas que je peux sortir 3 albums parce que je suis pas assez.
C'est la difficulté de l'exercice.
Ouais, non mais enfin, je peux en sortir 3, mais j'ai pas forcément 3 albums qui m'ont vraiment marqué dans cette scène. Allez, pour pas dire le même que Momo, je vais dire Close Casquette de Hesham qui est cool. Si on a un à écouter d'Insane Clown Posse, ce serait plutôt The Great Milenko, mais bon, je ne les ai pas tous écoutés non plus. Je pense que celui-là est bien représentatif. Mais voilà, j'en ai pas plus. Okay. Enfin, Mystic Styles, évidemment, ça reste le top du top.
J'avoue, c'était un peu mon Joker dans cette histoire.
Voilà, c'est un peu c'est ta Joker card comme les.
Non, après, plus de 3, c'est un problème. Moins de 3, ça passe. Quoi. C'est juste pour éviter de surcharger les auditeurs avec des 15 albums à écouter. Mais donc voilà, on vous balancera comme d'habitude les noms sur le site. Oui, petit rappel peut-être, quand on sort un épisode sur le site, vous pourrez retrouver sur la page toutes les références qui ont été citées dans l'émission, enfin une grande partie en tout cas grâce au bon travail de Jojo sur le sujet, et puis qu'est-ce qu'on retrouve, les sons qui sont passés dans l'émission, et quelques jours après une playlist pour compléter l'émission, justement avec une quinzaine de sons à chaque fois pour approfondir le style pour les personnes qui ont kiffé. Voilà, on peut peut-être passer justement sur l'influence en France rapidement de l'horreur core, alors qu'il est peut-être plus une influence de Memphis du coup, ce que tu disais Jojo.
Alors en France, je disais sur Suicide Boys. Après en France, je connais pas très bien la scène.
Al Capote, par exemple, ouais. J'imagine plus été influencé par la 3-6.
Al Capote, Suicide, oui, c'est des enfants de la 3-6, c'est de Kupstanica. Kupstanica, d'ailleurs, je crois que c'est l'artiste préféré de Suicide, il le dit en interview. Et oui, si, il y a quand même des pratiquants de l'horreur core d'une manière ou d'une autre en France. Al Capote et Suicide, c'est sûr et certain, c'est des gros fanatiques. Après, t'as des mecs comme Escobar Maxon ou C-Boy qui sont dans ce registre-là très, très macabre, très, très noir. C'est pas forcément tout le temps de l'horrorcore. Bon, il y a eu la chanson de Don Choa de l'FF où Hannibal.
Le docteur Hannibal, tu m'as permis de réécouter ce son, j'avais totalement oublié son existence.
Et voilà, après, c'est pas représentatif de Hacker de Don Choa. Mais ça rentre dedans, oui, voilà. C'était quand même. C'est marrant, c'est un storytelling où il se met à la place d'un serial killer et qui d'autres en France sinon, oui, il y en a, il y a peut-être Virus un peu aussi, mais je les connais pas tous.
Oui, toute la clique de Neocro, ouais. À un moment avec ses Diego, etc. Enfin, qui ont joué sur le côté un peu trash, un peu glauque.
Bah oui, ils étaient vraiment mi-chemin entre l'horrorcore et le white trash chez Neochrome. Donc, je pourrais faire un style de une émission un jour, le white trash, si on a assez de matière.
Mais du coup, il y aura un large consensus pour vous conseiller notre bon ami Al Capote. Donc on est,
ah oui, vive Alka, vive Alka, vive Alka.
On terminera d'ailleurs l'émission sur sa Disney perversion d'Al Capote. Il est temps de clôturer, malheureusement ça passe très vite. N'hésitez pas à nous envoyer aussi à chaque fois si vous avez des propositions de scènes qu'on n'a pas encore abordées, de sujets que vous aimeriez qu'on aborde, de rubriques, de choses qui pourraient manquer dans l'émission, n'hésitez pas. Voilà, on pense par exemple à faire des petits lives plus interactifs. Est-ce que ça vous plairait? N'hésitez pas à nous faire des retours. Est-ce que vous voulez rajouter une dernière chose avant qu'on se quitte, les amis?
Alors, vive Al Capote, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Et vive la 3-6, bien évidemment.
Jojo.
Oui, vive la 3-6, je suis vraiment d'accord.
Vive
Al Capote, je ne peux que plus, c'est aussi. Donc, voilà.
Et ben merci à tous. On vous retrouve dans un mois pour on vous annoncera le sujet. Merci à Momo d'ailleurs pour ces belles vidéos teaser de chaque épisode. Du coup, on vous annonce ça très bientôt. Merci à tous et bonne soirée.
Bonne soirée, ciao ciao.
Ciao. Bonne soirée.
Je passe mes vacances à Zarzis, j'suis pourri de mandat partis, mais j'suis Versace pendant la crise. Jonathan H, c'est mon blast artiste. J'te baise en position assise, suce-moi même si t'as un strabis. Suce avec ou sans vaseline, ça glisse. L'empereur de la crasserie ou du sadisme. Sadisme et perversion, charisme et perfection. Sadisme et perversion, charisme et perfection. Sadisme et perversion, charisme et perfection. Al Capote et DJ Weedim, top de nouvelles perceptions. Salope, je te la mets tout doucement dans le cul, mets-la en veilleuse. Chut, chut, suce-moi la bite langoureusement en me regardant dans les yeux. Sus, sus, je m'en vais heureux seulement une fois que je t'ai craché dans les cheveux. Je veux l'argent d'Israël, je veux l'argent des Chinois, je veux l'argent des rebeux. Bouge de la grand, faut que je touche de l'argent, donc je roule de l'Afghan et refourgue de la blanche. Rentrer, ressort ma bite d'une bouche de maman, faut que je fasse vite une autre pouffe m'attend. J'économise rien à foutre de la banque, je connais le goût de la poussière, je connais le goût de la cendre. Y'a pas de doute, Jonathan est bel et bien perdu dans ce putain de tourbillon ou d'ouragan. Dès que je sors une rafale me touche, je débouche les tuyaux comme Mario et Luigi, je te dévore, ouais, Alka te bouffe. Dans la cuisine avec DJ Weedim, c'est dans l'Essonne que ta femme me trouve. Je décoffe de la cam de ouf. Le trésor de Rakam le rouge. Oui, des gommes, ce bâtard de hnouche. Des trosses de coups de fouet dans le dos. Né avec des parents repos. J'ai consommé tellement de gueudreau. Trop défoncé, je rentre tôt. Toute la journée dans l'entrepôt. Je suis fatigué, j'ai pas de temps de repos. J'ai le bouclier de Lancelot. Je vais te bousiller, je change de flow. Je change de rime, je change de texte, je change de slip mais pas d'équipe. Suceur, tu manges à tous les râteliers, je te vois, t'es pathétique, je porte des chemises. En soi nacré, tu connais pas ma devise, tu m'envoies navré. Je fume un joint, je suis sur la voie lactée. Je vais aller me tatouer une croix gammée. Passer ma soirée avec trois tasses B. Le rap, la drogue, l'alcool, je dois me calmer. On enregistre et puis on voit après. Dédicace à Champigny, bois la baie. On fume du putain de te chinois cramé. Je m'en fous que ta mère ou ta soeur soit charmée. Je m'en fous que ta mère ou ta sœur soit charmée. J'passe mes vacances à Zarzis. J'suis pourri de mandat partis. Mais j'suis Versace pendant la crise. Jonathan H, c'est mon blast artiste. J'te baise en position assise. Suce-moi même si t'as un strabis. Suce avec ou sans vaseline, ça glisse. L'empereur de la crasserie ou du sadisme. Sadisme et perversion, charisme et perfection. Sadisme et perversion, charisme et perfection. Sadisme et perversion, charisme et perfection. Al Capote et DJ Weedim, top de nouvelles perceptions.